ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont on peut réinventer nos relations, les penser autrement que sous l'angle de la construction normative, de la contrainte ou de la possession. Le polyamour, c'est apprendre à accueillir la jalousie plutôt qu'à la nier, à cultiver la confiance et l'écoute, à prendre soin de soi et des autres, émotionnellement comme physiquement. C'est accepter que nos envies, nos imaginaires puissent évoluer. Il n'existe pas un modèle unique relationnel. Toutes les configurations peuvent fonctionner du moment qu'elles sont transparentes, consenties et respectueuses. C'est un terrain complexe, riche, souvent joyeux, parfois fragile, qui nous invite à repenser la place de l'amour, du désir, du soin et de la liberté dans nos liens. Aujourd'hui, on ouvre donc la discussion autour des relations plurielles. Pour en parler, je reçois Karine et Jules de l'Asso Poly Toulouse. Bonjour.
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 Le temps est bon.
Bienvenue au MAG, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi de nous avoir invités.
Avant de parler théorie et pratique, j'aimerais que vous vous présentiez et nous dire un peu ce qui vous a amené à explorer le polyamour.
Du coup, moi je m'appelle Jules, je suis sexothérapeute et fondateur du groupe donc de l'Asso et du groupe Poly à Toulouse. J'ai commencé le polyamour quand j'avais 25 ans, ça a débuté par féminisme et l'anarchie.
Et bonjour, moi c'est Karine, j'ai 38 ans et je pense que j'ai jamais trop compris pourquoi on ne pensait pas à nos relations amoureuses comme nos amitiés. Et donc je pense que c'est une réflexion qui se fait peu à peu, avec le féminisme aussi, la remise en question des normes, de pourquoi on devrait aimer qu'une personne et sortir un précédent amour pour en avoir un nouveau dans nos vies.
Comment est-ce que vous définiriez le polyamour? Votre définition à vous déjà.
Alors le polyamour, c'est un mot qui recouvre en fait une diversité de pratiques, c'est un peu un mot parapluie. Et ça peut être vu comme une philosophie de vie. Je tiens à distinguer la différence entre polyamour et polyamorie. La polyamorie, c'est une orientation relationnelle, donc de la même manière qu'il y a d'autres types d'orientation dans l'identité. Donc la polyamorie, c'est l'inverse sur un spectre de la monoamorie. Si c'est une philosophie de vie, ça implique certains concepts, et j'en ai relevé cinq, qui sont l'égalitarisme, l'honnêteté radicale, la fidélité, mais on pourra revenir dessus, la communication et des capacités d'introspection.
Alors pour moi, le polyamour, c'est très simplement, c'est le fait de pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps et de décider consciemment de le vivre. C'est-à-dire qu'on peut, il y a plein de gens dans la vie qui peuvent se rendre compte qu'elles ont des sentiments pour, en général, une personne en plus que leur conjoint ou leur conjointe, mais ça reste un crush éloigné, ça reste un fantasme.
Tu trompes ton partenaire, mais tu lui dis pas, quoi.
Exactement. En France, en plus, on a une vraie culture de l'infidélité, du couple libre. Le polyamour, c'est une autre proposition qui est j'aime plusieurs personnes, je décide de le vivre et je demande leur consentement à toutes ces personnes. Surtout et elles sont d'accord pour être dans cette espèce de grande famille.
On parle de philosophie, est-ce que tu dirais que le polyamour constitue un modèle relationnel à part entière ou c'est plutôt une pratique qui s'inscrit dans des vies concrètes traversées par des rapports sociaux, des contraintes matérielles, organisationnelles?
Absolument les deux. Et en plus, le polyamour, comme disait Jules, c'est un mot parapluie qui va regrouper plusieurs façons de vivre des relations non exclusives, non monogames. et où chaque personne va un peu définir son polyamour et ses règles du jeu comme elles lui conviennent. C'est ce qui offre aussi une grande liberté, mais aussi un peu un flou parfois, et qui oblige à beaucoup de discussions, de transparence, de remise en question. C'est ce qui est très intéressant aussi, parce que tout est à inventer, mais c'est un peu vertigineux aussi.
En théorie, pas d'hierarchie, je reste anarchiste, mais je suis trop archi fan de toi. Amour pluriel, pas vraiment de loi, pas vraiment de choix. Si je devais en faire un, ce serait toi. Je suis polia, mais quand même plus amoureux de toi. T'es plus magnifique dans cet apocalypse, et tant magnifia que ça qui nous anime. Pour toi, je lancerai des briques sur les flics et les bourgeois.
Alors ce flou peut aussi engendrer de la méprise. Quand vous vous en parlez autour de vous, qu'est-ce qui revient le plus souvent comme remarque ?
Moi je pourrais pas.
Ah oui, ou bien mais t'es pas jalouse ? Si, ça peut. ça peut. Il y a une autre émotion dont on parle de plus en plus qui est la compersion, qui est le fait de se réjouir du bonheur de l'autre, de l'amour aussi que l'autre peut ressentir pour d'autres. Et ce ne sont pas des opposés, on peut ressentir de la compassion et de la jalousie en même temps. Et ce sont des choses qui s'apprennent et qu'il faut accepter de ressentir.
Pas la compassion, ni la conversion, mais la compersion.
En fait, c'est se réjouir du plaisir et du bonheur qui éprouve quelqu'un d'autre.
La compersion, c'est une forme d'empathie, mais qui se focalise spécifiquement sur le bonheur de l'autre. Et ce bonheur qu'éprouve l'autre peut être une source de joie pour nous aussi. Il y a des gens qui arrivent même à éprouver du bonheur en voyant leur partenaire heureux avec quelqu'un d'autre.
Et là où les polis l'ont poussé dans un cadre spécifique, c'est se réjouir du bonheur que éprouve quelqu'un qu'on aime dans une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas dans nos bras à nous.
Après, sur les idées reçues, je dirais qu'il y a quand même des stigmates qui sont assez présents. On peut parler de l'idée que c'est une phase. Les polyamoureuses sont des personnes instables, qui ne savent pas faire de choix.
Qui ne savent pas s'engager.
Qui sont hypersexualisées. Donc, on partage pas mal des stigmates proches de des bisexuels. Et les bisexuels sont surreprésentés dans le polyamour. Donc voilà, ça fait partie un peu des accusations.
Ce qui est cool, c'est qu'on peut sortir un petit carnet là, parce qu'il y a pas mal de vocabulaire qui va être utilisé. moi, je suis compersion. Bon, ça, je connaissais, mais je l'ai noté.
Pour éprouver l'émotion positive qu'est la compersion, il faut réussir à comprendre l'origine de l'émotion négative qu'est la jalousie.
Il y a définitivement un aspect idéologique à l'expérience de la compersion. Donc souvent, les gens expérimentent la jalousie de façon vraiment spontanée, vraiment corporelle, mais ils utilisent un processus mental pour se rappeler que, bon, ils ne veulent pas contrôler leur partenaire et qu'ils n'ont pas vraiment besoin de se sentir menacés. C'est souvent la réinterprétation de cette situation qui peut être un facteur préliminaire à l'expérience de la compersion.
Il n'y a ni l'impératif de ne pas éprouver de la jalousie, ni celui d'arriver à éprouver de la compersion. Mais il y a, en revanche, l'idée qu'il faut la déconstruire pour laisser l'autre libre d'aimer qui il veut sans souffrir soi-même.
C'est une jolie notion, je pense, qui est nécessaire parce que ça représente un sentiment qui n'avait pas de définition. Malgré tout, moi, je me méfie de l'injonction à la compersion. En fait, on peut être très, très bien dans les relations plurielles sans forcément ressentir de la compersion. J'ai l'impression que la compersion arrive quand d'autres besoins sont répondus, comme le besoin de sécurité.
Jules, tu l'as évoqué, tu as rapidement parlé d'anarchie. Est-ce que vous vous sentez proche d'un héritage politique du polyamour ou alors vous en méfiez ?
Alors, historiquement, parmi les premières représentations, c'était Koh Lanta en 1923. Donc, c'est une révolutionnaire russe qui parlait de l'amour camarade.
Il y a plus d'un siècle, la femme politique russe Alexandra Koh Lanta en parlait déjà. Le concept, s'aimer sans se posséder et libérer l'amour pour libérer la société. Au début des années 1900, on appelait ça l'amour camaraderie. Chaque société a un modèle amoureux qui correspond à son modèle d'organisation sociale. À l'époque industrielle, le couple, c'est une forme de propriété de l'autre, mais qui se limite à la propriété physique. Et avec l'ère capitaliste arrive une volonté de possession non seulement du corps de l'autre, mais aussi de son esprit, de ses relations, passées ou présentes, de sa vie. Cette organisation sociale basée sur la propriété et sur la domination qu'est le capitalisme s'applique aussi dans la sphère amoureuse. Donc, dans un système non capitaliste, en l'occurrence socialiste-marxiste dans le cas d'Alexandra Kollontai, l'amour dans ce cas devrait être basé sur l'égalité et la solidarité, puisque c'est l'idéal social, donc c'est aussi forcément l'idéal amoureux.
Donc ensuite, les années passent, et le polyamour, ou en tout cas les relations libres, sont arrivées aussi avec un héritage queer, avec la lutte pour les droits, et donc ça s'inscrit de toute façon dans des pratiques, on va dire, situées très à gauche. Après, il y a plusieurs versions aujourd'hui du polyamour. Une version qu'on appellerait libertaire, où c'est ma liberté d'abord et puis bon, on voit pour les autres. Et une version collectiviste qui serait plus proche de l'anarchie. Et cette version collectiviste, je pense, c'est plutôt celle que nous, on porte comme valeur au sein de notre association. Moi, quand j'ai commencé les relations plurielles, clairement, je me suis inspirée des fanzines anarchistes. Il y a notamment Léo Vidal et Corinne Monnet qui avaient fait des écrits dans ce sens. Et ça date des années 90, il me semble.
Moi aussi, je vois une critique implicite de la propriété privée, très très proche de toute façon de l'analyse anarchiste des relations.
En tout cas, en tant qu'association, peut-être pas en tant qu'individu, on a envie que tout le monde se sente à l'aise de pratiquer le modèle relationnel qui lui convient et qu'on est assez ouvert. Donc, on a des visions politiques et en même temps, on veut s'adresser un peu au plus grand nombre. Donc voilà, c'est une position. Il y a une différence, je pense, entre une position publique et une position individuelle. Et par rapport à la propriété privée, je pense que oui, dans le polyamour, il y a cette idée de repenser l'autre comme un sujet de droit, et non comme un capital. Les relations ont tendance à être vues comme un capital. Et donc là, on a envie un peu de casser ça et de remettre la relation comme un lien.
Le gars était un tâcheron, n'ayant que ses bras pour fortune. La fille, celle du patron, un beau fermier de la commune. Ils s'aimaient tout de tant et plus, ils s'aimaient tout de tant et plus. Écoutez ça, les bonnes gens, petits de cœur et gros d'argent. Écoutez ça, ils s'aimaient tant et plus, l'amour ça se fout des écus.
D'ailleurs, si on continue sur cette idée de politique, est-ce que vous considérez que l'intime, c'est un espace de lutte ?
Oui, complètement, parce que déjà, le couple et la famille sont des lieux de grande violence. Donc repenser le modèle qu'on nous a inculqué, qui est le modèle hégémonique dans notre société, c'est forcément remettre en question les dynamiques de pouvoir et sortir de ce modèle où une personne appartient à l'autre, c'est foncièrement politique.
L'intime et politique, je pense que c'est de toute façon... il y a des années de lutte derrière qui le disent. De toute façon, l'intime est un endroit où se rejouent les schémas sociaux. Moi, j'apporterais une limite, c'est la question de la renormalisation, de recréer des nouvelles normes enfermantes et de rentrer dans des nouveaux scripts rigides. Moi, j'ai envie qu'on mette dans la question du polyamour et des relations plurielles de nouvelles normes qui ne soient pas juste décaler l'échelle de valeur, mais plutôt de faire péter les échelles de valeur entre les façons de relationner.
Pas d'hierarchie, je reste anarchiste, mais je suis trop archi fan de toi. Amour pluriel, pas vraiment de loi, pas vraiment de choix, mais si je devais en faire un, ce serait toi.
C'est vrai que c'est une idée plutôt ancienne. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps une émission là, sur Platon qui critiquait déjà l'unicité de l'amour qui pouvait être pensée comme une forme de restriction. C'est vrai qu'il critique la réduction de l'amour à une attraction singulière. Bon, évidemment, lui, c'est pas dans une logique de polyamour, mais c'est juste dire que c'est des sentiments et des questions qui font sens.
Oui, parce que le modèle de couple où l'amour amoureux est au centre de la naissance du couple, c'est quelque chose de très récent, ça date de la fin du 19e siècle. Mmh. C'est politique et ça a été un nouveau roman qui s'est fait autour du couple, où le but est devenu de trouver cet amour et de le trouver au sein du couple et pas ailleurs. Là où pendant très longtemps, la majorité des unions étaient des unions d'intérêts financiers, politiques, et où l'amour, si ça se naissait au sein du couple, c'était bonus, et sinon, il était plus ou moins admis qu'on pouvait avoir des flirts et des amours en dehors, tant que ça venait pas menacer le couple, suivant aussi sa classe sociale, bien sûr. Mais l'amour amoureux comme but ultime et unique au sein du couple, c'est très neuf.
Ouais, c'est un récit.
Complètement.